Bonjour à tous. J'espère que vous profitez bien de ce jour du sabbat et que vous en tirez le meilleur parti possible. Voici la troisième partie de la série que j'ai commencée il y a quelque temps, intitulée Retour aux fondamentaux, n'est-ce pas? Si vous vous souvenez bien, dans les deux premières parties, nous avons commencé par prouver où se trouve l'Église du Christ, où se trouve le corps du Christ, comme l'un des éléments fondamentaux qui sont abordés lors du conseil de baptême, lorsqu'une personne se prépare à se faire baptiser. Dans la deuxième partie, nous avons prouvé l'authenticité de la Bible et avons présenté toutes les preuves qui démontrent qu'il s'agit de la parole de Dieu. Et nous allons conclure, comme je l'ai dit, dans l'ordre inverse de celui que vous suivriez pour vous préparer au baptême, en prouvant que Dieu existe. Comme je l'ai dit dans les autres parties, nous avons fait l'inverse, car lors du baptême, vous prouvez que Dieu existe, vous prouvez que la Bible est vraie, puis vous prouvez où se trouve son Église, et enfin vous vous engagez. Une fois que vous vous êtes engagé dans ce mode de vie, il arrive souvent que ceux qui perdent de vue Dieu perdent la véritable Église, puis la Bible, et finalement Dieu lui-même. Le but est donc de vous donner cette base, quelque chose vers laquelle vous pouvez toujours revenir, pour renouer avec ce que vous avez fait lors du baptême. Ou si vous êtes en chemin vers le baptême, cela vous servira également. Mais croire en Dieu, le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, est énorme. S'il n'y a pas de Dieu, nous perdons notre temps. Tout ce qui concerne notre mode de vie, ce que nous comprenons, le livre, tout cela est une perte de temps absolue. Et beaucoup, beaucoup de gens en sont arrivés à cette conclusion. Si Dieu existe, et bien sûr, nous savons qu'il existe, mais le but aujourd'hui est de le prouver, alors cela change tout. Il y a eu un moment dans ma vie où je ne croyais pas en l'existence de Dieu. Je vais vous parler d'un des éléments de ce message qui a changé ma façon de penser et m'a fait réaliser, oh, il existe un être supérieur qui a créé cet univers et qui a planifié l'existence des êtres humains. Que dois-je faire maintenant? Et lorsque nous le prouvons, la première étape est souvent, d'accord, que dois-je faire maintenant? Allons au chapitre 1 de l'Épître aux Romains et regardons le verset 20. Romains 1, verset 20. Nous allons aborder quelques versets fondamentaux, en les parcourant rapidement. Une grande partie de ce que nous allons voir aujourd'hui, vous allez le constater, recoupe largement ce que nous avons fait dans la deuxième partie pour prouver l'authenticité de la Bible, car les deux vont de pair. Si vous prouvez l'existence de Dieu, vous prouvez que la Bible est sa parole, ce qui revient à prouver l'existence de Dieu. Donc, si vous pouvez prouver que la Bible contient des connaissances impossibles à avoir pour les êtres humains, vous prouvez essentiellement l'existence d'un Créateur. Mais vous pourriez objecter, non, vous prouvez l'existence d'une race extraterrestre. Vous prouvez. Vous pouvez avancer l'argument que quelque chose d'autre a créé la Bible, une intelligence supérieure. Il est donc crucial de revenir à la preuve de l'existence de Dieu, afin de pouvoir ensuite étayer les preuves de la Bible. Romains, chapitre 1, verset 20. Le verset 20 dit, car les choses invisibles de Dieu, depuis la création du monde, sont clairement visibles à l'esprit, étant comprises par les choses qui ont été faites, même par sa puissance éternelle et sa divinité. Ils sont donc inexcusables. Quiconque ne croit pas que Dieu existe, quelle que soit la version de cette croyance, aujourd'hui, il ne s'agit pas nécessairement de prouver l'existence d'un Dieu trinitaire ou d'un Dieu monothéiste, ni bien sûr le vrai Dieu. Il s'agit de prouver l'existence d'un Dieu, car c'est cela qui change toute la donne, à savoir qu'il existe un être éternel, hors de l'espace et du temps, qui a créé tout ce que nous connaissons et tout ce que nous sommes. Définir les caractéristiques de ce Dieu, c'est une autre discussion. Et c'est pourquoi vous prouvez la Bible, puis vous prouvez l'Église. Car l'Église, notre mère à tous, vous enseigne ensuite comment voir le Père, puis, bien sûr, Jésus-Christ. Mais les gens n'ont aucune excuse, car cela existe. Aujourd'hui, nous allons donc construire un argumentaire concret, rationnel et étayé par les Écritures pour prouver que Dieu existe. Commençons par le tout début. Il y a beaucoup de petits points, mais certains d'entre eux ont beaucoup de poids. Et c'est celui qui fait trébucher la science. Les évolutionnistes, toutes ces approches athées de la vie trébuchent sur ce point. Ce point pourrait être la clé. Je pourrais vous donner cette seule chose et m'arrêter là. Je pourrais le faire dans un sermon. Nous en aurions fini. Parce que c'est ce qui fait trébucher complètement les évolutionnistes. Vous pourriez le formuler ainsi. C'est la nécessité de ce qu'on appelle la cause première. Ainsi, quelle que soit la manière dont vous argumentez en faveur de l'évolution, vous pouvez toujours remonter plus loin. Donc, si quelqu'un défend l'évolution, il dit, eh bien, on dirait que ceci s'est transformé en cela, il n'y a pas de cas d'évolution interespèce, de macroévolution, comme il dirait, par opposition à la microévolution. Vous pouvez évoluer au sein d'une même espèce. C'est la microévolution. La macroévolution serait, par exemple, un cheval qui devient un singe. Il n'y a aucune preuve de cela, même aujourd'hui dans les fossiles. Mais peu importe, dans tous ces cas, ce que vous faites quand vous discutez, ce n'est pas de discuter avec eux, mais si quelqu'un vous pose une question, vous répondez, eh bien, qu'est-ce qui a créé le singe? Qu'est-ce qui a créé le cheval? Qu'est-ce qui a créé la bouillie dont vous dites que nous sommes tous issus? Qu'est-ce qui a créé la planète? Qu'est-ce qui a créé l'univers? Il doit y avoir une cause première. Et nous savons que l'univers a commencé. C'est dans les années 1920 que le Big Bang a été découvert. C'est un sujet amusant, car les gens me demandent, croyez-vous au Big Bang? Et je réponds, oui, bien sûr. C'est simplement Dieu qui est responsable de la création du Bang. Donc oui, il y a eu un Big Bang, car nous savons que l'univers a commencé. Nous pouvons mesurer son expansion. Nous comprenons qu'il y a eu un moment où tout a commencé, et où l'univers a commencé à s'étendre. Donc oui, il y a eu un Big Bang, ce qui signifie qu'il n'y avait pas d'univers avant ce moment-là. Oh, la science a-t-elle essayé de comprendre ce qui a fait que le néant est devenu quelque chose? Et pour faire quelque chose à partir de rien, il faut une force extérieure qui ne fait pas partie de l'espace, car celui-ci n'existait pas encore. Le temps n'existait pas encore. Pour créer l'espace et le temps. Allons à la Genèse, au tout début de la Bible. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est une affirmation audacieuse. Pensez à toutes les religions que vous pouvez imaginer en dehors de la Bible, mais même celles qui disent croire en la Bible rejettent souvent, en particulier une grande partie de la Genèse, parce qu'elle parle d'Adam et Ève et de divers premiers êtres humains dont l'existence est contestée parce que les gens ont une vision différente. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est une affirmation assez audacieuse, et c'est pourquoi vous prouvez la Bible, parce que la Bible prouve Dieu, et Dieu prouve la Bible. Les deux vont de pair, et vous le verrez au fur et à mesure que nous avancerons dans ce message, ils sont liés encore et encore. Passons au psaume 90. Psaume chapitre 90. Il n'y a pas de chapitre, c'est le livre des psaumes, donc le psaume 90. Verset 2. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées, avant que tu eusses formé la terre et le monde, D'éternité à éternité, tu es Dieu. Avant qu'il y ait eu des montagnes, avant la terre, le monde, les cieux, il y avait Dieu. Encore une fois, la Bible fait des déclarations si audacieuses que si nous ne vivions pas à l'époque moderne, nous devrions en quelque sorte les accepter comme un article de foi, mais grâce à ce que nous vivons, à l'endroit où nous vivons et à l'époque où nous vivons, nous pouvons prouver ces déclarations. Regardons un autre verset. C'est important. Ésaïe 57. Ésaïe chapitre 57. Et juste un verset ici aussi, le verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, qui habite l'éternité. C'est une déclaration d'un être extérieur à l'espace et au temps, car l'univers a eu un commencement. L'éternité indique qu'il n'y a pas de commencement. Et vous et moi, nous ne pouvons pas imaginer cela. Il est facile pour vous et moi de penser à l'infini, car nous pouvons le voir au loin, et il disparaît simplement à l'horizon, l'infini. Mais votre cerveau, votre esprit, nous tous, l'esprit humain ne peut concevoir l'éternité. Nous ne pouvons concevoir l'absence de commencement. Eh bien, parce qu'il devait y avoir quelque chose qui, quand Dieu est-il entré en jeu? Eh bien, il a toujours existé. Eh bien, comment cela est-il possible? Parce que nous sommes des êtres humains physiques, nous encadrons tout ce que nous faisons autour de l'espace, du temps et de la matière. Tout ce à quoi vous pensez est encadré par ces trois concepts. Nous avons une horloge au fond de la pièce parce que le temps est important. Nous installons des chaises, et vous installez des chaises dans votre congrégation en laissant un espace entre elles. Vous installez des chaises. Ce sont des objets matériels. Nous sommes des objets matériels. Tout est encadré autour de cela. Il nous est donc difficile de concevoir un être qui habite l'éternité. Mais continuons. Qui habite l'éternité, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et saints. Avec lui sont ceux qui ont l'esprit contrit et humble, afin de ranimer l'esprit des humbles et de ranimer le cœur des contrits. C'est là que se trouve Dieu. La cause première, la seule explication à tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la magie. Tout est apparu d'un coup. Et vous pouvez parler d'anciennes races extraterrestres. D'accord, mais qui a créé ces anciennes races extraterrestres? Eh bien, elles viennent de l'autre côté du système solaire. Qui a créé le système solaire? C'est toujours le problème fondamental, la cause première. Passons au Nouveau Testament, Colossiens. Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Le verset 16 dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Il y a 2000 ans, quelqu'un a fait une déclaration sur les choses invisibles que Dieu a créées. Pensait-il au vent? À quoi pensait-il qui était invisible? Mais il n'avait pas de microscope ni les moyens d'analyse dont nous disposons aujourd'hui. Que ce soit les trônes, les dominations, les principautés ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Il était la cause première. Dieu et Christ œuvrant ensemble. Pouvez-vous l'imaginer? Vous ne le pouvez pas, car nous ne pouvons pas imaginer l'éternité, mais imaginons des millions d'années, car cela, nous pouvons le concevoir. Imaginez les millions d'années pendant lesquelles Dieu et Christ ont planifié l'univers, en réfléchissant à tout. Ils ne l'auraient pas mesuré en années, car les années sont un concept qui relève de l'espace et du temps, mais pour faciliter la visualisation, ils travaillaient ensemble, planifiant, passant en revue tous les détails. Vous savez, Nous avons récemment entendu parler, en particulier, de l'importance que Dieu accorde à la consultation. Vous pouvez donc imaginer Dieu, Christ et les anges réfléchissant à toutes ces choses. Nous servons un Dieu éternel qui est à l'origine de la première cause. Il faut être en dehors de la création pour pouvoir la créer. Donc, si l'univers a besoin d'une cause, alors quel type de cause, si vous voulez, permettrait à la vie d'apparaître? Examinons cela de plus près. Revenons à l'univers avant de passer à autre chose. Nous allons commencer par une vue d'ensemble, en examinant l'univers, puis nous passerons au système biologique pour continuer à approfondir la question. Mais nous pourrions nous arrêter là, n'est-ce pas? Il fallait qu'il y ait un être en dehors de l'espace et du temps pour créer l'espace et le temps. Cela pourrait être tout. Nous pourrions en rester là, mais nous ne faisons que commencer. Examinons la précision, car cet univers est si finement réglé. C'est incroyable, car nous existons simplement dans cet univers sans y prêter attention. Cette étendue qui s'étend sur des années-lumière et des millions d'années-lumière, si loin, qu'est-ce que c'est? 14 ou 15 millions ou milliards d'années-lumière. Nous avons pu déterminer l'âge de l'univers grâce à certaines mesures. Mais il suffit de modifier quelques paramètres, littéralement de toucher quelques boutons, pour que tout s'effondre. Les contraintes physiques sont si étroites que la probabilité que l'univers existe est minime. Si la gravité était plus forte d'une partie sur 10 à la 40e puissance, soit 10 fois 10 fois 10, 40 fois, les étoiles n'existeraient pas. Elles s'effondreraient. Si la gravité était aussi forte, il suffirait d'augmenter le cadran de la gravité d'un tout petit peu, d'un tout petit peu. Pensez à tous ces 0, 10 à la 40e puissance, donc 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je pourrais continuer toute la journée. Augmenter la gravité autant, les étoiles ont trop de gravité et elles s'effondrent sur elles-mêmes, et l'univers n'aurait jamais vu le jour. Il y aurait eu trop de gravité. Cela aurait été comme un moteur qui essaie de démarrer, mais qui n'y parvient pas, s'effondre et il n'y aurait pas d'univers. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que deux physiciens et statisticiens ont essayé de calculer les conditions d'entropie nécessaires à l'existence de la vie. C'est un nombre tellement difficile à imaginer. Bon, je vais vous le dire comme je l'ai dit pour l'autre nombre. Il s'agit d'un 10 à la puissance 10, puis à la puissance 123. Si vous aimez les mathématiques, vous vous dites, oh là là, c'est un nombre énorme. Si vous n'aimez pas les mathématiques, contentez-vous d'accepter les grands nombres. Je vais essayer de vous expliquer cela plus simplement. Si nous essayons de convertir ce nombre en pourcentage, rappelez-vous que si nous changeons quelque chose de 10%, de 5% ou de 0,1%, qu'est-ce que cela donne? Si nous convertissons ce nombre en pourcentage, imaginez un zéro, puis autant de zéros que de particules connues dans l'univers entier. 0, 0, 0, jusqu'à ce que vous ayez plus de zéros que de particules connues dans l'univers entier. C'est la probabilité que la vie et l'univers existent. Disons-le autrement. Si vous mettiez le zéro, puis les zéros, cela ferait plus de zéro que tous les atomes de l'univers entier. Mes frères, ce point bleu pâle sur lequel nous vivons dans cet univers, dans ce système solaire, dans la Voie lactée, dans ce quadrant de l'univers, dans l'univers lui-même, est tellement unique. C'est incroyablement unique. C'est comme avoir un million, un milliard, un trillion, et continuer jusqu'à ce que vous ayez un chiffre, c'est le pourcentage de changement qui provoquerait l'effondrement de l'univers. C'est à ce point que ce dans quoi nous vivons est unique. C'est avec une telle précision que Dieu et Christ ont conçu cet univers. Et même la science, c'est incroyable si vous laissez parler les évolutionnistes ou les scientifiques qui croient en l'évolution ou aux concepts qui la sous-tendent, qu'ils soient astrophysiciens ou dans n'importe quel autre domaine. Ils parlent de l'univers. Ils parlent de la biologie comme s'il y avait une force derrière, qui la dirige. Même lorsqu'ils parlent de constante, de cette force nucléaire forte qui maintient les protons et les neutrons ensemble dans les atomes, ce n'est pas une valeur qui évoluerait, car sans le bon réglage, les atomes ne se formeraient pas. Il n'y aurait pas de liaison. Cette force n'existerait pas. La constante de Planck. Elle détermine les détails de la vitesse de la lumière. La constante cosmologique. C'est ce qu'Einstein a utilisé dans nombre de ses équations sur la relativité, pour parler de la densité énergétique de l'espace. Et ce qui déconcerte la science, du moins son aspect athée, c'est que ces valeurs ne semblent pas s'être mises en place par hasard. Elles semblent arbitraires, comme si elles avaient été fixées, parce que, selon notre compréhension, elles l'ont été. Nous comprenons qu'elles ont été parfaitement fixées pour permettre que cela se produise. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Passons à l'Épître aux Hébreux. Nous allons développer cela tout au long du message. Je vais aborder un sujet, puis nous examinerons la Bible. Nous poserons les bases, puis nous verrons comment la Bible les confirme. Ainsi, à bien des égards, nous prouvons à nouveau la Bible aujourd'hui, mais nous allons partir de là. Donc, Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Je vous laisse ouvrir à cette page. Et au verset 2, à partir du verset 2, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé les mondes. Les mondes. C'est tout. Il ne s'agit pas seulement de la Terre. À mesure que nous explorons et comprenons notre système solaire ou notre galaxie, nous commençons à voir d'autres planètes qui semblent pouvoir abriter ou avoir abrité la vie. Rappelez-vous qu'à un moment donné, Satan s'est rebellé et a détruit l'univers. Il n'est donc pas surprenant que nous allions sur Mars et trouvions des preuves d'une planète qui semblait avoir été beaucoup plus stable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Verset 3. Lui qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il a créé les mondes. Revenez à Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40. Et verset 12. Ésaïe 40 et verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main et les cieux à l'aide d'une coudée. Imaginez cela, Dieu, tenant en quelque sorte un océan. Nous comprenons maintenant comment un Dieu immense et grand se manifeste. Imaginez-le tenant un océan dans sa main. Mesurer les cieux d'un coup d'œil, et il a embrassé de son regard toute la poussière de la terre, et il a pesé les montagnes dans la balance. Vous voyez Dieu tenant une montagne, et les collines dans la balance. C'est un créateur. C'est quelqu'un qui construit. Si vous avez déjà construit quelque chose, vous savez qu'il faut mesurer, observer, déterminer, planifier, dessiner, tester. Dieu a-t-il testé les choses avant de créer l'univers? Ont-elles été imaginées? Ce sont des questions que vous aimeriez poser à Dieu dans le royaume. Quand tu as créé l'univers, qu'as-tu fait? Qu'avais-tu fait, toi et Christ? Combien de temps avez-vous mis pour le planifier? Et il vous regardera et vous dira, eh bien, le temps n'avait pas vraiment d'importance, et nous comprendrons peut-être alors ce que cela signifie. L'univers n'est pas autonome. Il doit être soutenu. Sinon, il s'effondre. Ces détails sont si finement réglés, mais cela ne se limite pas aux étoiles, aux galaxies ou à ces constantes mathématiques. Nous le voyons ici aussi. Nous le voyons sur Terre. Commençons par la position de la Terre. Pendant longtemps, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, nous avons eu une vision très étrange de la position de la Terre. Vous avez probablement déjà entendu parler de la zone de Goldilocks, qui comprend de nombreux éléments qui contribuent à la rendre habitable. Si vous ne la connaissez pas, il s'agit de l'espace situé à une certaine distance d'une étoile qui permet à la vie d'exister. Elle n'est donc pas trop proche. Nous ne sommes pas Mercure. Et nous ne sommes pas trop loin, par exemple de Mars, où beaucoup d'éléments n'entrent pas en jeu. Et tout se résume en fait à un seul élément, l'eau. Si une planète a de l'eau, toutes sortes de choses se produisent. Et la Terre est positionnée de manière à pouvoir retenir l'eau. Car sans atmosphère, l'eau s'évapore, comme sur Mars. Si les conditions de la planète ne sont pas réunies, le champ magnétique, etc., l'eau s'évapore. Si la planète n'est pas assez grande, elle n'a pas assez de gravité. L'eau s'évapore. Et sans eau, il n'y a pas de vie. La Terre est inclinée d'environ 23,5 degrés. Elle est également différente de la plupart des planètes. Certaines planètes ont un axe différent. Certaines ont un axe fixe. Mais selon leur emplacement et leur proximité, l'effet du Soleil va changer cela. Et puis, nous avons aussi une Lune qui agit comme un contrepoids pour nous empêcher de basculer. En effet, si vous avez deux objets lourds, imaginez-les sur une balance. Si vous placez la Terre ici et la Lune là, l'une contrebalance l'autre et empêche la balance de basculer. Si vous retirez la Lune, la balance bascule. Mais la Lune nous maintient dans notre inclinaison. Et cette inclinaison nous permet d'avoir des saisons qui font que certaines parties de la planète se réchauffent et d'autres se refroidissent, ce qui crée des saisons qui permettent à la végétation de faire ce qu'elle doit faire. La Lune est un excellent exemple où cela ne se produit pas. La Lune est figée. Chaque fois que vous regardez la pleine Lune, vous voyez toujours la même face. Il y a la face sombre de la Lune et la face éclairée. Et la différence est extrême. Il fait des centaines de degrés de moins sur la face sombre de la Lune que sur la face éclairée. C'est pourquoi nous atterrissons toujours de ce côté-là. Si la Terre était comme cela, et c'est le cas de nombreuses planètes, alors un côté de la planète serait un désert gelé et l'autre serait carbonisé. La Terre est également particulière en ce sens qu'elle possède un noyau magnétique. Au centre de la planète se trouvent du fer et d'autres métaux qui se déplacent de telle manière qu'ils génèrent un champ magnétique. Ce champ magnétique protège la planète de la proximité du Soleil. Sans ce champ magnétique, nous serions bombardés par le rayonnement solaire, qui détruirait l'atmosphère, ce qui rendrait la planète plus chaude et ferait bouillir l'eau. Rappelez-vous, tout revient à cela. Plus on s'éloigne, moins c'est un problème, mais il fait alors trop froid et l'eau gèle. Ce n'est pas une substance qui permet la vie, mais de l'eau gelée, comme celle que l'on voit sur différentes planètes du système solaire. Pensez à Europe, autour de Jupiter, c'est cela. Elle possède de vastes océans d'eau gelée. Tous ces éléments devaient être réunis, la position, la composition, ainsi que toutes les inclinaisons et la Lune. Sans la Lune, nous n'aurions pas de marée. Nous n'aurions pas de marée. Il y a tellement de choses qui ont dû être parfaites pour que nous puissions être ici et vivre, pour que cette planète puisse soutenir la vie, toute vie, la vie cellulaire, toute vie. Passons à Ésaïe 45, quelques chapitres plus loin. Nous sommes toujours dans Ésaïe. Verset 18, 45, 18. Car ainsi parle le Seigneur qui a créé les cieux, Dieu lui-même qui a formé la terre et l'a faite. Cela se retrouve tout au long de la Bible. Dieu parle de sa création. Il l'a établie. Il ne l'a pas créée en vain. Il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Il nous a mis ici pour permettre la vie. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Psaume 104. Psaume 104. Lisez un peu plus loin. Nous commencerons au verset 5. Psaume 104, à partir du verset 5. Qui a fondé la terre pour qu'elle ne soit pas ébranlée à jamais? Tu l'as couverte d'un voile, d'un vêtement, et les eaux se sont élevées au-dessus des montagnes. C'était le chaos, surtout après la rébellion de Satan. À ta menace, ils s'enfuirent. À la voix de ton tonnerre, ils se hâtèrent de s'éloigner. Dieu a recréé la terre. Il y a eu la création initiale. Nous ne pouvons que deviner et examiner certaines archives archéologiques qui montrent à quoi ressemblait la terre avec les dinosaures et les reptiliens, et quand Satan était ici, avant qu'il ne se rebelle. Nous en avons des images, de l'histoire, mais nous ne savons pas vraiment à quoi cela ressemblait. Mais vous pouvez imaginer, Dieu ne crée rien en vain, c'est clairement dit. Cela devait donc être magnifique, mais la rébellion a tout détruit, et il n'y avait plus que le vide et la désolation. Et puis Dieu a dit, « Non, je vais la recréer. » À la voix des tonnerres, ils se sont précipités. Ils montent sur les montagnes, ils descendent dans les vallées, jusqu'à l'endroit que tu as fondé pour eux. Tu as fixé une limite qu'ils ne peuvent franchir, de peur qu'ils ne reviennent couvrir la terre. Il a empêché les eaux de recouvrir toute la terre lorsqu'il l'a recréée. Job 26. Le livre de Job est rempli de choses étonnantes, montrant la création, montrant la Bible. C'est l'un de ces passages, excusez-moi l'expression, où Dieu fait étalage de sa puissance. Il parlait avec Job et lui a dit, « D'accord, Job, laisse-moi te montrer quelque chose, et ce faisant, il a donné de nombreuses preuves incroyables de l'existence de Dieu et de la raison pour laquelle la Bible est un livre si unique. » Job 26, verset 7, un verset simple. Il étendit le nord sur le vide, il suspendit la terre sur rien. J'ai déjà parlé de ce verset, car le concept de rien n'existait pas il y a quelques milliers d'années. Pourtant, la Bible dit clairement que la terre était suspendue au-dessus de rien, car on ne comprenait pas encore les champs gravitationnels, mais ils sont invisibles. Et Dieu a simplement déposé la terre à l'endroit parfait. Parce que si vous regardez notre système solaire, vous entendez, « Oh, il y a un astéroïde qui va s'approcher de la terre. » Vous savez pourquoi ils doivent surveiller cela ? Parce que la plupart des éléments de notre système solaire, rappelez-vous notre système solaire et notre galaxie, se trouvent dans notre partie de l'univers. Nous parlons donc de petites distances en termes astronomiques. La plupart des objets ne restent pas sur la même orbite. Leurs orbites se dégradent. C'est pourquoi les objets tombent lorsqu'ils tournent autour des satellites. Ils dégradent leur orbite, puis s'écrasent sur la Terre ou dans l'atmosphère et brûlent. L'orbite de la Terre ne se dégrade pas. Elle se dégrade légèrement, mais nous avons plusieurs milliards d'années avant que cela ne devienne un problème. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas comme cela et qui finissent par tomber en spirale vers le Soleil. Mais Dieu l'a placé à l'endroit parfait. Il l'a placé à l'endroit parfait. Et tout cela devait être réuni pour permettre la vie sur Terre. Et la plupart de ces éléments, comme je l'ai dit plus tôt, servent en réalité à garantir qu'il y ait une chose unique sur cette planète, à savoir l'eau liquide. C'est la clé. Elle doit être liquide. Elle peut être gelée. Elle peut bouillir. Elle peut faire toutes les choses que l'eau peut faire, ce qui, en tant que substance à part entière, est très unique. Mais il doit y avoir de l'eau liquide. Toutes les formes de vie sur cette planète en ont besoin. Vous la buvez. Nous devons la consommer, sinon nous mourrons. Nous l'utilisons pour tant de choses. Pour nous laver, pour cuisiner, et dans tous les systèmes dont nous disposons. Les plantes la boivent. L'eau permet aux plantes de rester vertes. Si vous prenez un instant pour réfléchir à ce que fait l'eau, à ses applications et à ses utilisations, vous vous rendez compte qu'elle est partout. De l'été à l'hiver, les précipitations, les activités aquatiques. Vous faites du canoë. L'eau est si fondamentale et si étrange. C'est l'une de ces substances qui ne suivent pas beaucoup les règles, principalement parce qu'elle a une polarité étrange avec la liaison entre les atomes d'hydrogène. Elle ne se comporte pas comme la plupart des autres substances en raison de cette polarité. Et cette polarité crée une tension superficielle très élevée. Ainsi, si vous prenez beaucoup de substances, que vous les disposez sur une surface et que vous placez une petite boule légère sur ces substances, la plupart des choses tomberont, car la boule elle-même serait solide, diriez-vous. Elle briserait la tension superficielle de la plupart des substances. Mais l'eau a une tension superficielle extrêmement élevée. C'est pourquoi vous voyez ces petites araignées qui marchent sur l'eau, ces petites araignées qui collectent des choses, car leur poids appuie sur cette tension superficielle, mais ne la brise pas. Si vous placez ces mêmes petites créatures sur la plupart des substances, elles tomberaient immédiatement. L'eau a également une chaleur spécifique très élevée. Elle transfère la chaleur de manière très constante sur tout son spectre de température. De l'état gelé à l'état bouillant, son transfert de chaleur est très constant, ce qui tempère le climat. Vous pouvez sortir un jour d'été sous la pluie, et l'eau qui tombe du ciel est encore fraîche, car l'eau ne se réchauffe pas rapidement. Elle libère lentement cette chaleur ou ce froid lorsqu'elle transfère cette température. L'eau est un solvant. Elle est capable de dissoudre plus de substances que tout autre liquide connu. Vous vous dites, oh, c'est génial pour nettoyer. Mais c'est bien plus que cela. Les cellules de votre corps ont besoin d'eau pour dissoudre les substances et les éliminer. Les nutriments et les déchets ont tous besoin d'eau pour être dissous. Sinon, des morceaux de substances flotteraient dans votre circulation sanguine, car ils ne se dissoudraient pas sans eau. Sans parler de tout ce que nous utilisons pour dissoudre, les roches qui existent aujourd'hui existent parce que l'eau a coulé dessus. L'eau gagne toujours. Nous avons plaisanté lors de la construction de ce campus en disant que la chose la plus importante à apprendre lorsque l'on construit quelque chose de grand est de déterminer où va l'eau. Car, en fin de compte, l'eau gagne toujours. Elle trouve les fissures. Elle trouve les crevasses. Elle s'y engouffre. Elle se dilate et gèle. Elle fissure les objets. Si vous ne contrôlez pas où va l'eau, elle finit par l'emporter et peut détruire tout sur son passage. Elle est puissante. Elle nous permet de faire ce que nous faisons et de vivre comme nous vivons. Et nous ne sommes pas les seuls, les plantes, les animaux, tout, du moustique à l'éléphant, dépend de l'eau. Et ce n'est pas une substance normale. C'est une substance qui sort de la norme et qui se trouve par hasard sur Terre. Je dis cela pour plaisanter, bien sûr, avec ironie, car elle se trouve par hasard dans un endroit qui lui permet de rester à l'état liquide. Revenons à Job. Nous y sommes toujours. Revenez un chapitre en arrière ou avancez de 10 chapitres jusqu'à Job 38. Job 38, vous y êtes toujours. Au verset 8, Job 38, verset 8, qui a fermé les mers avec des portes, quand elles se sont ouvertes comme un sein maternel, quand j'ai fait des nuages leurs vêtements. Quand j'ai fait les nuages. Dieu le dit simplement. Pauvre Job. Vous pouvez vous imaginer la scène, il se dit, « Oh, oui, tu as fait les nuages. Je ne suis peut-être pas si génial que cela. Quand j'ai fait des nuages son vêtement, et l'obscurité épaisse comme un langon pour le couvrir, et que je l'ai brisé pour mes barrières et mes portes fixées, les océans, les rivières, les ruisseaux, et que j'ai dit, « Vous viendrez jusqu'ici, mais pas plus loin, et ici s'arrêteront vos vagues orgueilleuses. » Cela nécessitait la lune, car il faut que la marée monte et descende. Si la marée restait au même niveau, les plages seraient dissoutes. Les digues seraient dissoutes. Vous dissolvez toutes les choses qui sont destinées à empêcher l'eau d'avancer, car elle finirait par les emporter. Car, encore une fois, l'eau gagne toujours. Mais la marée descend, soulage les choses, la marée monte, apporte des nutriments, et tout le reste aussi. Mais les rivières se jettent dans les lacs. Les lacs se jettent dans des rivières plus grandes, puis finalement, toutes se jettent dans l'océan. Ésaïe 55. Mes frères, nous vivons dans un monde extraordinaire. Ce dont nous faisons partie, celui que nous servons, revenez parfois et pensez, c'est l'Église qui comprend qui est Dieu. Il n'y a aucun autre endroit sur terre qui comprenne la nature de Dieu. Beaucoup parmi les dissidents en comprennent certains éléments, mais ils ont Dieu le Père en arrière-plan. Ils restent en retrait après le millénium, sans vraiment s'impliquer. Mais nous comprenons que non, il est au centre. En fait, c'est lui qui accomplit le travail dans ce premier royaume. Nous sommes les seuls à comprendre ce Dieu, celui qui a créé toutes les choses dont nous parlons et dont nous parlerons encore. Vous êtes probablement à Ésaïe 55. Je devrais y revenir aussi. Verset 10 d'Ésaïe 55. Car, comme la pluie descend et la neige vient du ciel et ne revient pas sans avoir arrosé la terre, et qui fait germer et croître la terre, qui donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi ma parole sortira de ma bouche et ne reviendra pas à moi sans effet. Mais elle accomplira ce que j'ai voulu, et elle prospérera dans ce pourquoi je l'ai envoyé. Verset 10. Comme la pluie descend et la neige du ciel, et ne revient pas, parce que la pluie ne revient pas. La neige ne revient pas. Non, elle s'écoule dans les océans, puis s'évapore. Et vous comprenez pourquoi Dieu compare le Saint-Esprit à l'eau et les implications spirituelles d'une substance si essentielle à la vie. Nous sommes donc situés dans un endroit parfait. La planète est parfaitement équipée. Prenons un peu de recul et posons-nous une question plus large. Pourquoi l'univers permet-il que tout cela existe ? Il existe un principe appelé principe anthropique. Il a été introduit par un physicien dans les années 1970, suggérant que certaines propriétés existent parce que si elles n'existaient pas, nous ne serions pas là pour les observer. Dit autrement, c'est une façon assez amusante de le formuler. Si Dieu n'avait pas créé l'univers tel qu'il existe aujourd'hui, nous ne serions pas en vie pour observer l'univers tel qu'il a été créé. Et dans ce sens, Dieu a créé l'univers pour qu'il soit observable. Il aurait pu créer l'univers d'une autre manière, ou même notre planète, notre position sur la planète, ou n'importe quelle autre planète à proximité. Nous n'en avons pas besoin. Si vous modifiez légèrement l'orbite des planètes, vous n'avez pas nécessairement besoin des autres planètes de notre système solaire. Mais elles sont là, et nous pouvons les voir, et nous pouvons voir les étoiles. Pourquoi les étoiles produisent-elles autant de lumière? À quoi cela sert-il? Pourquoi créer cela? Ce n'est pas nécessaire. En fait, ce n'est pas très efficace, car cela ne fait que projeter des photons dans tout l'univers. Cela fait brûler les étoiles plus rapidement, n'est-ce pas? C'est comme si vous essayiez de cuire quelque chose dans votre four avec la porte ouverte, cela prendrait beaucoup plus de temps à cuire parce que vous perdez de l'énergie. Ces étoiles n'avaient pas besoin de produire autant de photons. Elles auraient pu produire de la chaleur d'une autre manière. Mais Dieu a créé l'univers pour qu'il soit observable. Rappelez-vous le chapitre 1, verset 20 de l'Épître aux Romains. Il l'a fait pour que nous puissions le voir à travers ce qu'il a créé. Il l'a rendu observable afin que nous puissions l'observer et dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour que cela existe, à moins qu'un Dieu ne l'ait créé. N'est-ce pas là le génie de notre Créateur? Non seulement il a créé quelque chose qui est impossible pour tout ce qui n'est pas un être extérieur à l'espace et au temps, mais il l'a créé de telle manière que nous puissions le regarder et le voir en lui. Dieu veut que nous regardions les étoiles. Il veut que nous ressentions la puissance de la majesté de l'univers. C'est un Dieu qui veut être connu. Il est invisible, mais il a choisi de créer un univers, un monde, qui nous permet de lever les yeux et de le trouver en lui. Psaume 19. C'est l'un de mes sujets préférés pour prêcher. J'aime ce sujet parce que c'est ce qui m'a poussé à commencer à m'intéresser à Dieu. Mais aussi, il y a tellement de choses à découvrir, et c'est tellement inspirant, mes frères, de pouvoir trouver, creuser, examiner la Bible, voir l'univers et utiliser la science comme Dieu l'a voulu pour pointer vers lui. Psaume 19, verset 1. Les cieux proclament la gloire de Dieu, et l'étendue du ciel annonce l'œuvre de ses mains, parce qu'il a choisi de le faire ainsi. Le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Il n'y a point de langage, point de parole, et leur voix n'est point entendue. Dieu est dans tout ce qui existe, il en est conscient. La création parle, si vous voulez, un langage universel. C'est un indicateur universel qui renvoie à l'être qui a tout créé. D'accord, donc il l'a créé. Il l'a rendu observable. Il nous a placés au bon endroit. Commencez à additionner. Rappelez-vous, les probabilités de toutes ces choses que nous construisons actuellement, à mesure que nous nous rapprochons de plus en plus de la biologie, quelles sont les probabilités que cela existe sans Dieu? Mes frères, vous devriez partir aujourd'hui, même si vous croyez déjà en l'existence de Dieu, mais avec une conviction plus forte que jamais, non, cet être a tout créé. Je sers le seul vrai Dieu et la seule vraie Église. Vous devriez être inspiré. Tout est finement réglé. Tout est bien structuré, mais cela nécessite certaines lois qui permettent à la nature de se gouverner elle-même. À partir des années 1600, 1680, vous avez Newton et ses travaux publiés, puis les équations du champ d'Einstein en 1915. Lorsque nous avons commencé à vraiment apprécier pleinement, nous avons découvert qu'il existe des lois mathématiques qui régissent la nature et l'univers, qui peuvent être mesurées, calculées, puis qui permettent de créer des hypothèses et des conclusions à partir de ces lois. Et ce ne sont pas des choses qui devraient être là ou qui doivent être là. Encore une fois, Dieu a fait en sorte que les choses soient observables afin que nous puissions les observer. Pour avoir des lois mathématiques, il faut un esprit qui pense mathématiquement, qui a une structure mathématique, qui met en place des systèmes permettant cela. Vous pouvez créer quelque chose. Si vous y réfléchissez un peu, vous pouvez fabriquer une niche pour chien et la monter à la va-vite. C'est une façon de procéder. Cette niche sera solide ou non, selon la façon dont vous la construisez. Vous pouvez également utiliser les lois mathématiques qui existent dans cet univers, qui ont été établies par quelqu'un qui a réfléchi à la question, et les appliquer à cette niche. Vous obtiendrez alors les angles parfaits, le triangle d'or, la règle d'or de divers aspects de l'architecture, tous ces éléments qui sont des principes que nous comprenons simplement comme des mathématiques. Grâce à cela, nous pouvons créer des navires, des bâtiments et des gratte-ciels et les reproduire à l'infini grâce aux mathématiques. Ce n'est pas nécessaire. Mais un être qui voulait être connu, qui voulait vous donner, à vous et à moi, un moyen de prouver qu'il existe, qui voulait que nous créions. Parce que ces lois de la physique, des mathématiques et de la science, toutes ces lois vous donnent, à vous et à moi, l'espace dans lequel nous pouvons créer. Nous pouvons construire. Nous pouvons comprendre l'univers parce que nous servons un Dieu qui veut être vu, même s'il est invisible. Proverbe 3. Un peu plus loin. Vous êtes probablement encore dans les psaumes. Proverbe chapitre 3, verset 19. 3, 19. Et le Seigneur, par sa sagesse, a fondé la terre. Par son intelligence, il a établi les cieux. Par sa connaissance, les profondeurs ont été fendues, et les nuages font tomber la rosée. Dieu a créé ce que la science moderne n'a compris que relativement récemment. Mais même ces scientifiques ont du mal avec cela. Malgré tous les discours et toutes les explications sur l'évolution, toutes les théories qui ont été avancées, quelque chose ne leur semble pas logique. Même en s'éloignant de la cause première. Donnons-leur la cause première. Disons, d'accord, nous ne savons pas. Vous voyez, la datation est compliquée parce que, eh bien, pour commencer, il y a eu deux déluges. Quand Satan s'est rebellé, il y avait de l'eau partout. Elle a écrasé et compacté tout ce qui se trouvait sur terre. Imaginez que vous versez de l'eau au fond d'un verre, la pression exercée par l'eau va compacter tout ce qui se trouve au fond. La terre était donc recouverte d'eau. Il y avait les dinosaures. Lucifer régnait à l'époque. Tout a explosé, tout a été aplati. Puis Dieu a recréé la terre, et la vie a continué pendant un certain temps. L'homme a fait ce que l'homme a fait, un autre déluge. Tout a été aplati. Dieu a continué, a tout recommencé. Cela rend donc très difficile de dater les événements de manière normale, surtout si l'on rejette ces récits. Bien que les surfaces aplaties soient bien là. C'est donc une autre preuve scientifique de la véracité de la Bible. Mais je dis tout cela parce que ces dates sont approximatives. On estime qu'il y a environ 550 millions d'années, quelque chose de très étrange s'est produit. À partir de rien, quelque chose est soudainement apparu. La vie est apparue. C'est ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. Nous sommes passés d'une planète qui n'avait rien, aucun organisme, rien, à des formes de vie complexes, pleinement formées, sans ancêtres. Pouf, elles sont apparues. C'est impossible selon la théorie de l'évolution. Darwin avait besoin de ces micro-étapes pour justifier la macro-évolution. Mais notre première vision de la vie sur Terre s'est présentée ainsi. Soudain, il y avait ces organismes entièrement formés. Et cela ne peut tout simplement pas s'expliquer. Ils essaient. Ils inventent des échafaudages. Il existe toutes sortes de théories sur la façon dont cela a pu se produire, et ce n'est qu'une question de datation, et parce qu'il y a eu une sorte d'événement mondial qui a tué les dinosaures. Cela aurait donc causé une certaine confusion. Toutes sortes d'absurdités, simplement pour ne pas accepter ce que dit la Bible. Satan s'est rebellé. Il a détruit la planète. Il n'y avait pas de dinosaures quand toute la planète était recouverte d'eau. Mais elle a simplement explosé. La vie est apparue parce qu'elle a été créée. La vie a été créée, tout comme les êtres humains sont apparus parce que la vie a été créée. Genèse, chapitre 1 et verset 20. Genèse 1, verset 20. Le verset 20 dit, « Et Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des créatures vivantes qui se meurent, et des oiseaux qui volent au-dessus de la terre, et que le firmament soit ouvert. Et Dieu créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meurent, que les eaux produisirent en abondance, selon leur espèce, et tous les oiseaux ailés selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. » Il y a eu un moment, après les dinosaures, lors d'un événement de recréation, où Dieu a simplement créé les choses, comme cela aurait pu se produire avant la rébellion de Lucifer. Et la vie est apparue selon son espèce. C'est une explication problématique pour les évolutionnistes. C'est pourquoi vous ne voyez pas de chevaux s'accoupler avec des cerfs ou des éléphants avec des rhinocéros. Parce que la procréation entre espèces différentes est presque impossible. Il y en a quelques-uns, comme les ânes et les chevaux, qui sont proches dans la nature, mais la plupart du temps, peu importe les différences physiques, l'insémination artificielle ne fonctionne pas. Parce que Dieu a créé les choses selon leur espèce, et donc conçu pour se reproduire selon leur espèce. La vie n'a pas évolué. Elle est apparue. Complète. Fonctionnant en harmonie. Bon, commençons à entrer dans la biologie. Car il existe des systèmes qui, encore une fois, réfutent l'évolution, puisque ce n'est qu'un effet secondaire amusant, mais qui prouve également l'existence de Dieu, car il fallait simplement apparaître dans un certain état pour que les choses fonctionnent. Il existe un concept en biologie, et franchement, dans tout domaine, celui d'un système irréductiblement complexe. Vous avez probablement déjà entendu parler de complexité irréductible. Il est impossible de retirer un élément de ce système sans que celui-ci cesse de fonctionner. L'électricité est un élément essentiel de la société moderne qui est irréductiblement complexe. Si vous débranchez la prise, tout s'arrête. Si vous avez un moteur, retirez une bougie, le moteur s'arrête. Vous ne pouvez pas retirer une seule pièce pour que cette chose fonctionne. Si vous retirez une pièce de l'organisme ou du système, dans ce cas un moteur, retirez la pompe à essence, et le moteur s'arrête. Dans les organismes, c'est exactement la même chose. Certains sont si complexes que si vous en retirez une partie, l'organisme tout entier cesse de fonctionner. Ils sont d'une complexité irréductible. Et cela va à l'encontre de l'évolution, qui permet d'expliquer les étapes, car s'ils ne disposaient pas de cet élément, ils n'existeraient pas. Prenons deux exemples. Il y a le flagelle, un flagelle bactérien. Il s'agit essentiellement d'un petit moteur qui tourne. C'est ainsi qu'il se déplace. Il nécessite plus de 40 protéines pour fonctionner. Plus de 40 bactéries. Si vous retirez l'une de ces protéines, si vous modifiez l'une de ces protéines, ce petit moteur s'arrête. Cela ne peut pas évoluer, car il a besoin de chaque. Et il s'agit d'une bactérie très connue, qui a donc pu être testée, modifiée, et à laquelle on a pu retirer et ajouter des protéines. Si vous brisez ce que Dieu a créé, cela ne fonctionne plus. Parce qu'elle n'a pas évolué. Elle ne s'est pas simplement ajoutée au fil du temps. Non. Mais nous pouvons aller bien plus loin que cela. Nous pouvons aller bien plus loin que cela. Vous et moi en avons. Tous les mammifères en ont, nos yeux. L'œil humain, l'œil des mammifères, est incroyable. Pas seulement pour ce qu'il peut faire, mais aussi pour le fait que vous et moi pouvons voir tous ces éléments. Pensez à ce qu'est l'œil. L'œil est un capteur qui transmet des données très basiques, un peu comme un ordinateur, des 1 et des 0, un ordinateur central, notre cerveau, qui prend ces données abstraites et construit ce que vous et moi voyons comme la réalité. Il n'y a aucune limite à ce que nous voyons, car tout ce que vous et moi voyons est ce que notre cerveau pense que nous devons voir. C'est pourquoi vous pouvez faire ces petits tests qui créent des illusions d'optique, car cela perturbe le cerveau. Il perturbe le logiciel. Tous ces éléments doivent fonctionner ensemble. Il faut avoir le cristallin, la rétine. Il faut avoir le nerf optique, puis la capacité que Dieu a mise dans notre cerveau dès notre naissance, lorsque nous avons commencé à voir, préintégrer. Tout doit être en place, sinon nous ne voyons pas ou nous n'avons aucune notion de la réalité. Lorsque les gens ne peuvent pas voir, ils apprennent à compenser. Mais s'ils peuvent apprendre à compenser, c'est en grande partie parce que les personnes qui voient leur donnent les outils nécessaires pour fonctionner dans le monde qu'ils voient. Si nous étions tous aveugles, l'humanité n'aurait pas beaucoup évolué. Si tous les mammifères l'étaient, nous serions morts. Nous serions mangés. Nous ne pourrions pas nous nourrir. C'est là qu'intervient la théorie de l'échafaudage, qui consiste à dire, eh bien, si cela se trouvait ici et que cela avait construit ces multiples choses et que cela avait atteint un certain point, une partie serait tombée. La probabilité est un problème. Les statistiques sont un problème. Cette probabilité ne permet pas à la théorie de l'échafaudage de fonctionner sur la durée nécessaire, peu importe le nombre de millions d'années que vous voulez attribuer à la Terre. Il n'y a pas assez de temps pour que la théorie de l'échafaudage fonctionne, car il faut construire quelque chose et enlever une partie qui tombe par hasard sur une autre partie. Vous ne pouvez pas prendre 1 million de singes, les mettre devant un clavier et obtenir un roman. Ce serait un hasard ridicule. Toutes ces parties de notre œil, de cette bactérie, sont interdépendantes. Elles ont besoin les unes des autres pour fonctionner. Sans chaque partie, l'autre partie est inutile. Si vous n'avez pas de nerf optique, vous n'avez pas besoin d'œil. Vous n'avez pas besoin de lentille, car elle ne sert à rien. Et Dieu ne crée rien pour rien, sans but. Passons à Exode 4. Nous sommes dans la Genèse, c'est plus proche. Exode 4, verset 11. Exode 4, 11. Et le Seigneur lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Je ne pourrais pas vous parler si je n'étais pas construit de telle manière que j'ai des lèvres, une langue et des cordes vocales, et que l'air passe par les cordes vocales et que notre cerveau apprend à étirer, comprimer et façonner les mots dans notre bouche jusqu'à obtenir des sons. Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Dieu nous crée. Allons au psaume 139. À la fin des psaumes, le 139. Commencez au verset 13. Psaume 139, verset 13. Le verset 13 dit, car tu as possédé mes reins, tu m'as couvert dans le sein de ma mère. Je te louerai, verset 14, car je suis une créature merveilleuse. N'est-ce pas? Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait bien. Mes frères, Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils soient uniques. Nous avons en nous des éléments qui dépassent même ceux des autres mammifères. Notre esprit, notre capacité à avoir en nous une âme qui dépasse tout ce que Dieu a mis dans les animaux. C'est incroyable, à mesure que la science continue d'apprendre. Nous continuons d'en apprendre beaucoup plus sur les animaux, beaucoup plus sur leur capacité de traitement, leur capacité de raisonnement. Dieu a rendu les animaux beaucoup plus intelligents et beaucoup plus complexes que ce que la plupart des gens ont pensé pendant de nombreuses années. C'est encore une de ces conversations où l'on se demande, d'accord, Dieu, qu'est-il arrivé aux animaux? Qu'as-tu fait? Parce que tu vois ce que nous appellerions un comportement humain dans certains tests à mesure que nous modernisons cela. C'est fascinant. Nous sommes merveilleusement et redoutablement faits. Tout s'est mis en place lorsque Dieu a choisi de le créer. Tout ce dont nous parlons et tout ce que nous voyons dans les Écritures confirme la paternité divine de ce livre et de l'être qu'il a écrit. Bon, examinons le problème, un problème de l'évolution. L'évolution est un gros problème. On l'appelle souvent le problème de l'information. Elle ne peut pas expliquer d'où vient toute l'information, car lorsque les choses mutent, elles changent. Nous avons donc tous des tonnes de mutations. Ainsi, si vous avez les yeux verts, rouges, noirs ou bleus, c'est à cause de différentes mutations et de la façon dont vos gènes se sont mélangés dans les chromosomes lorsque l'ovule et le spermatozoïde se sont unis pour vous créer, vous, moi, nous tous. Nous sommes un cocktail de la constitution génétique de nos parents. C'est à cause des mutations que nous sommes tous différents. Certaines sont fondamentales, comme la couleur de nos yeux. Vous pourriez être plus pâle, c'est simplement votre nature. Est-ce toujours génial? Non, pas si vous vivez au soleil. Vous pourriez être plus foncé. Eh bien, ce n'est pas génial si vous êtes en hiver. Dieu a créé les gens pour qu'ils vivent dans différentes parties du monde pour une raison. C'est un tout autre débat. Mais la plupart du temps, lorsqu'il y a une mutation, vous, pensez-y. C'est juste un terme. L'attaque des mutants. Vous imaginez Hercule avec ses gros muscles? Non, vous imaginez plutôt des créatures extraterrestres qui débarquent parce que les mutants sont terribles. Oui, parce que les mutations créent des problèmes. Par exemple, il existe une mutation génétique sur le gène DRKN, une mutation génétique très spécifique. Elle serait donc présente dans tous vos gènes, car si vous avez une mutation, elle se répand dans tout le corps. C'est pourquoi on peut utiliser des technologies comme CRISPR et d'autres pour modifier les gènes, car ils se propagent dans tout le corps. En gros. Mais cette mutation, si les femmes en sont porteuses, augmente leur risque de cancer du sein et de l'ovaire. Cela ne vous rend pas surhumain. C'est tout le contraire. Pour augmenter quelque chose, vous devez ajouter des informations à ce système. Ajouter des informations à un système signifie que vous avez besoin d'une source externe pour fournir ces informations. La seule autre chose qui se produit, c'est une perte d'information. Ainsi, lorsque nous perdons des informations sur notre code génétique, nous perdons des caractéristiques. Nous perdons une partie de ce que nous sommes. Nous ne devenons pas meilleurs, nous devenons pires. Pensez à toutes les choses que vous pourriez, à toutes les malformations congénitales dont vous pourriez souffrir. Elles ne vous rendent pas meilleur, elles vous rendent pire. Pour avoir un code, il faut des codeurs. Vous n'avez pas la chance de produire plus d'informations par hasard. Comme je l'ai déjà dit, vous n'obtiendrez pas de roman, même si vous avez des millions de singes tapant sur un clavier. Vous n'obtiendrez que du désordre, du chaos. C'est pourquoi un biologiste évolutionniste très éminent, un auteur dont vous connaîtriez le nom si je le citais, admet généralement dans ses livres que l'évolution, pour fonctionner, avait besoin d'un réplicateur existant, ce qui signifie que la base fondamentale devait déjà exister pour la permettre. Et nous serions d'accord à l'échelle de la microévolution, où vous pouvez avoir des mutations au sein d'une espèce qui ne font pas passer l'humain au singe ou vice-versa, ou la girafe à l'âne. Cela ne passe pas d'une espèce à l'autre, mais vous pouvez avoir des variations, car vous pouvez avoir les yeux bleus ou verts. Job 12. Revenons à Job. Job chapitre 12, verset 10. Ou excusez-moi, verset 7. Nous commencerons au verset 7. Mais demandez maintenant aux bêtes, et elles vous enseigneront, et aux oiseaux du ciel, et ils vous le diront, ou parlez à la terre, et elle vous enseignera, et les poissons de la mer vous déclareront, qui ne sait parmi tous cela que c'est la main du Seigneur qui a fait cela, dans la main de qui est l'âme de tout être vivant et le souffle de toute l'humanité. Lorsque Dieu a commencé cela avec Adam et Ève, lorsqu'il a insufflé la vie, l'esprit humain, la vie, cela a déclenché une série d'événements qui ont permis à chaque être humain, vous et moi compris, d'exister aujourd'hui. La conception nécessite des connaissances, une structure et une vision à long terme. Ce code est donc présent en nous, dans chaque être vivant. Il est lisible et c'est la chose la plus complexe que l'humanité ait jamais découverte. Malgré toute notre ingéniosité, rien n'est aussi complexe que ce code. Et ce code, c'est l'ADN. À l'intérieur de chaque cellule de votre corps, à l'intérieur de chaque être vivant, se trouve l'ADN codé. Chaque cellule de chaque être vivant. Pour moi, c'est quelque chose de personnel. C'est ce qui a attiré mon attention. J'ai lu un article de Steven Meyer, je crois, intitulé « DNA and Design, l'ADN et la conception ». Il y abordait le système d'information et la structure de l'ADN. Il utilise, vous avez probablement déjà vu les quatre bases, A, T, C et G et comment on obtient cette forme en hélice, qui monte comme un escalier, vous pouvez en quelque sorte l'imaginer en train de se tordre. Ce qui est étonnant avec l'ADN, c'est qu'il ne devrait pas exister avec les informations qu'il contient. Il n'y a pas de liaison chimique entre chacune de ces échelles. L'information est donc stockée de chaque côté de cette échelle, sur les échelons de l'hélice de l'ADN. Et cette information est codée de telle manière que ces deux éléments regroupés font quelque chose qui est lié aux deux éléments suivants regroupés pour faire autre chose. Disons que c'est avec T ici, et ensuite c'est avec G là-haut. Vous avez besoin de cette spirale d'information pour pouvoir déterminer le plan qui nous compose. Vous entendez parler de tissus fœtaux et de la possibilité d'utiliser des tissus spinaux qui remontent à l'origine. Ce sont des cellules qui n'ont pas suivi un certain chemin, qui ne forment pas un ongle. Elles peuvent être transformées en n'importe quoi, car elles contiennent les instructions. Mes frères, à l'intérieur de chaque être vivant se trouvent les instructions qui le composent. Lorsque les cellules sont détruites, construites, meurent et sont créées dans notre corps, elles s'appuient sur le langage chimique de l'ADN qui leur permet de se construire. Lorsque vos ongles poussent, c'est l'ADN qui crée les cellules qui les font pousser et que vous coupez. Vous coupez un tas de cellules précodées que votre corps continue de produire. Lorsque votre peau pèle après un coup de soleil et que la peau en dessous commence à revenir à la normale, ce sont des cellules programmées avec des instructions. Vous pouvez imaginer cela comme une bibliothèque. Et à l'intérieur de chacune de vos cellules, ce concept est fou. Chaque cellule de votre corps possède cette immense bibliothèque. Et le constructeur de cellules, Dieu, mais imaginons que ces petits moteurs doivent se rendre sur une étagère et choisir le livre d'instructions pour construire plus de cellules pour les ongles, ou choisir la peau pour construire plus de peau. Toute cette bibliothèque se trouve dans chacune de vos cellules. Et ce n'est pas seulement une question d'espoir. Il y a une correction des erreurs. Elles ont des systèmes de réplication. Vous avez l'ADN et l'ARN, et la façon dont ils s'associent. Vous avez la façon dont l'ADN s'exprime ou dont les gènes s'expriment, qui diffère en fonction des facteurs environnementaux. Nous sommes tellement complexes. Nous sommes faits de manière merveilleuse et effrayante. Nous commençons tout juste à comprendre comment fonctionnent les gènes. Et ce n'est que récemment que nous avons compris qu'ils peuvent s'exprimer différemment. Pendant longtemps, nous avons pensé, bon, Voilà le code. Il construit la peau ou il construit un œil ou quoi que ce soit d'autre. Mais maintenant, nous comprenons que c'est bien ce qu'il fait, mais que cela peut se produire si les facteurs environnementaux ou d'autres gènes sont d'une certaine manière dans votre corps. C'est tout simplement incroyable. Cela n'arrive pas par hasard. Mes frères, cela n'arrive tout simplement pas par hasard. Nous sommes de retour dans l'Ancien Testament, alors regardons un verset ici. Nous commençons à conclure. Psaume 139. Au verset 16. Psaume 139. Verset 16. Tes yeux ont vu ma substance, encore imparfaite, et dans ton livre, tous mes membres étaient écrits. Réfléchissez à cela, mes frères. Dans le livre de Dieu, dans les livres qu'il a placés dans nos cellules, dans notre ADN, tous nos membres étaient écrits. Tout ce qui nous concerne est codé dans chaque cellule. C'est tellement efficace que cela se trouve dans chaque cellule. Ainsi, les cellules de vos ongles contiennent les mêmes informations que celles de votre ADN, toute cette structure, que votre peau ou votre tissu cardiaque. Elles se reproduisent et s'améliorent. Et le système est si efficace qu'il peut continuer à produire ces tissus. De nouvelles cellules peuvent être créées et nous ne mourrons pas. Lorsque les choses tournent mal, c'est là que le cancer apparaît, souvent dans un environnement propice. Nous sommes merveilleusement et admirablement créés par un être qui existe en dehors de l'espace et du temps. Et enfin, pour conclure, il y a un autre problème auquel la science se heurte. On ne peut pas créer la vie à partir de choses qui ne sont pas vivantes. Alors, encore une fois, donnons-leur le bénéfice du doute. La cause première. D'accord, peut-être que nous ne connaissons pas la cause première. Peut-être que la Terre est simplement apparue au fil du temps et que l'univers s'est formé. Vous avez donc cette planète sans vie, parce que tous les évolutionnistes diront que cela a commencé avant qu'il y ait de la vie. Mais quelque part dans cette bouillie gluante, peu importe ce que c'était, la foudre a frappé et pouf, nous avons obtenu nos premières cellules vivantes. Et à partir de là, vous avez commencé à évoluer au fil du temps. Vous le dites à voix haute et vous réalisez à quel point cela semble ridicule. Mais c'est ce qu'ils disent. Cependant, une seule expérience s'en est rapprochée. Le sujet est la biogenèse, le fait que la vie ne peut pas venir de la non-vie. Les choses organiques ne peuvent pas être créées à partir de matière inorganique. 1952. C'est le grand débat, et il est rejeté, et ils disent que c'est possible. L'expérience de Miller-Urey, ils ont essayé de dire, d'accord, si la vie a été créée, nous devons créer une atmosphère qui montre ce à quoi cela ressemblait à l'époque. Ils ont donc mélangé un tas de gaz, du méthane, de l'ammoniac, de la vapeur d'eau, toutes sortes de choses dans un système fermé, ont introduit des étincelles électriques, de manière très contrôlée, et cela a toujours échoué. Ces scientifiques, qui contrôlaient tous les éléments dans des conditions fermées très précises, ont introduit des forces extérieures et ont réussi à créer des acides aminés. Ces acides aminés n'ont jamais donné lieu à quoi que ce soit de biologique, mais ils ont créé des acides aminés. En fait, ce qu'ils ont prouvé n'avait rien à voir avec l'évolution. Ce qu'ils ont prouvé, c'est qu'il faut des systèmes de contrôle extérieur hautement structurés pour créer la vie. Dieu. Et on se retrouve avec des situations incroyables, du genre l'œuf ou la poule, quand il s'agit de biogenèse. L'ADN, dont nous venons de parler, ne peut pas se répliquer sans protéines. Les protéines ne peuvent pas être créées sans ADN. Si les deux ne sont pas apparus en même temps, la matière organique n'existe pas. C'est drôle, Même les scientifiques qui croient à l'évolution considèrent l'abiogenèse comme une impasse pour la science, car on ne peut pas créer la vie à partir de choses inanimées. 1 Jean, chapitre 1. Encore quelques versets et nous aurons terminé. Non, excusez-moi, Jean 1. Ce verset ne semblait pas avoir de sens. Jean, chapitre 1. Commencez au verset 3. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par lui, par Christ, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Toutes choses ont été faites. C'est aussi simple que cela. Nous prouvons la Bible, nous prouvons Dieu, nous combinons les deux, et ces mots sont simples. Acte 17. Acte chapitre 17. Verset 25. Acte 17, 17, 25. Il n'est pas adoré par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, puisqu'il donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Dieu donne la vie. Dieu donne le souffle. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Mes frères, tout ce que nous avons examiné aujourd'hui renvoie à un Créateur, renvoie à un être qui a tout mis en place de manière à ce que vous et moi puissions le découvrir. Proverbe 9 est notre dernier verset. Proverbe 9. Verset 10. Proverbe 9, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Mes frères, connaître Dieu, c'est savoir qu'il existe. Connaître sa puissance, c'est regarder ce qu'il a créé. Lorsque nous savons qui est Dieu, lorsque nous savons qu'il est là, lorsque nous prouvons qu'il existe, nos fondations ne vacillent pas. Lorsque nous prouvons ensuite que la Bible est sa parole, quel est le moyen par lequel Dieu communique avec l'homme, le mode d'emploi qui nous est destiné, à vous et à moi, pour mener notre vie, nous voyons encore mieux notre Créateur. Et puis, lorsque nous continuons à prouver où et comment Dieu œuvre à travers son Église, à travers l'Église de Dieu restaurée, le seul véritable corps du Christ, nous avons la possibilité de devenir comme lui. Mes frères, n'oubliez jamais votre Dieu. N'oubliez jamais son livre et n'oubliez jamais l'organisation qui vous enseigne à être comme lui. Chaque fois que vous vacillez, chaque fois que vous commencez à vous poser des questions, revenez en arrière et écoutez à nouveau ses sermons. Reconfirmez les choses que vous avez confirmées lors de votre baptême afin d'être sûr de pouvoir avoir ces conversations avec Dieu sur la façon dont les choses ont fonctionné. Vous pouvez être sûr que vous faites partie de la famille de Dieu et du royaume de Dieu qui viendra très, très bientôt.